et pense ne jamais y parvenir. Et pourtant, loin d'un conte mièvre, son livre offre une véritable fresque morale où chaque personnage explore une voie possible pour les femmes. Certains y voient même un reflet de l'âme féminine américaine du 19e siècle. Alors oui, mais en partie. Une petite partie à en croire Virginie Adam, notre invitée cet après-midi, qui analyse la place des femmes en Amérique dans un passionnant ouvrage. Dans le chapitre qu'elle consacre à Louisa May Alcott et aux quatre filles du Dr. March, l'historienne explique que le roman ne rend pas compte des profondes mutations sociales, économiques et raciales qui traversent en ce temps-là les États-Unis. À la fin de la guerre de sécession, les États-Unis entrent dans une période complexe et douloureuse, celle de la reconstruction. Le Sud, ravagé par la guerre, doit se reconstruire sur les ruines de l'économie esclavagiste. Dans ce contexte de profond changement post-abolition, les femmes noires jouent un rôle essentiel. Elles s'organisent, travaillent, revendiquent leur place dans une société qui continue pourtant à les marginaliser. Mais dans les quatre filles du Dr. March, elles sont invisibles. Et elles ne sont pas les seules à être absentes du roman. Entre 1865 et 1914, plus de 20 millions d'immigrants débarquent sur le sol américain. Parmi eux, de nombreuses femmes qui se retrouvent à trimer dans les usines textiles, dans des conditions souvent effroyables. À partir des années 1880, l'Amérique entre de plein pied dans l'ère de la production de masse. Les principes du taylorisme rationalisent chaque geste. Dans les ateliers de couture, ou sur les chaînes d'assemblage, les femmes, souvent issues des classes populaires ou immigrées, sont surexploitées, parfois jusqu'à la mort. Le drame de l'usine Tryon Shirt Waste en 1911, où 146 jeunes ouvrières périssent dans un incendie, faute de pouvoir fuir, illustre cruellement la violence de cette époque. Ironie tragique, un an auparavant, ces mêmes ouvrières avaient fait grève pour réclamer de meilleures conditions de travail. Jo March, l'héroïne du roman d'Alcott, le répète à qui veut l'entendre. Elle aurait voulu être fille unique. Mais si Louisa May Alcott avait voulu donner à voir toute la complexité de la condition féminine dans l'Amérique du 19e siècle, il aurait fallu agrandir la famille March et surtout la faire sortir de sa bulle. Il aurait fallu que ces jeunes filles croisent des ouvrières, des immigrantes, des femmes noires, qu'elles se frottent à d'autres réalités, à d'autres vies. Mais cela n'empêche pas le roman d'être riche et d'aborder des thèmes aussi universels qu'intemporels. L'éducation, les aspirations professionnelles, la maternité, la conjugalité, la maladie ou le deuil. Comme Beth March, la douce et discrète sœur de Jo, Elizabeth, la sœur bien-aimée de Louisa May, meurt emportée par la scarlatine en 1858. Une perte qui bouleverse à jamais la famille Alcott. En 1877, Louisa May voyage en France. Elle séjourne à Grez-sur-Loing chez sa petite sœur Abigail May, artiste peintre installée en Europe, à qui, vous l'avez compris, elle donne les traits d'Amy dans le roman. Si elle n'a pas pu représenter toutes les femmes, Louisa May Alcott n'en demeure pas moins une militante déterminée pour leur cause. En 1879, lorsque l'État du Massachusetts les autorise à voter aux élections locales, elle devient la première femme inscrite sur les listes électorales de Concord. Un geste fort et un symbole. Elle milite pour les droits des femmes avec ses mots, en écrivant régulièrement dans le Women's Journal, dirigé par son amie Lucy Stone, mais aussi par ses actes. Elle assiste à des congrès, parcourt le pays, mais reste profondément attachée à Concord, où elle continue d'écrire. Son roman « Rose et ses sept cousins », publié en 1875, rencontre un large succès populaire avec plusieurs centaines de milliers d'exemplaires vendus. Depuis la guerre de sécession, Louisa est affaiblie. Engagée comme infirmière bénévole auprès des soldats nordistes, elle avait contracté la fièvre typhoïde et reçu un traitement au calomel, un dérivé du mercure qui lui laisse des séquelles. Pneumonie, insomnie, migraine, troubles digestifs, sa santé décline inexorablement. Elle meurt à Boston le 6 mars 1888, à l'âge de 55 ans, deux jours seulement après la mort de son père. Mais c'est à Concord, au cimetière de Sleepy Hollow, qu'elle repose désormais aux côtés de ceux qui ont nourri son imaginaire et qu'elle a tant admiré, Ralph Waldo Emerson, Nathaniel Hawthorne et Henry David Thoreau. Son œuvre, elle, lui survit. Ce que le public ignorait à l'époque, c'est que Louisa May Alcott menait une double vie littéraire. Il faut attendre les années 1940 pour que deux libraires new-yorkaises, Madeleine Stern et Leonard Rosenberg, fassent une découverte majeure. Derrière le pseudonyme Day M. Barnard, la sage Louisa May a publié de nombreuses nouvelles sombres, passionnées, des récits gothiques qui n'ont rien à voir avec le monde feutré des sœurs March. Parmi eux, un roman reste inédit, pour le meilleur, pour le pire et pour l'éternité, dans lequel une femme déclare dès les premières pages « J'ai souvent le sentiment que je vendrais volontiers mon âme à Satan pour une année de liberté. Il faudra attendre 1995 pour que ce roman soit publié et qu'il devienne un best-seller d'ailleurs. » Aujourd'hui, l'ampleur de son œuvre est enfin reconnue. Comme l'explique le chercheur Daniel Shelley, sa réputation littéraire ne cesse de croître. Son œuvre a désormais toute sa place parmi les classiques de la littérature américaine. Car Louisa May Alcott était bien plus que la mère des quatre filles du Dr. March. Elle était une écrivaine audacieuse, libre et multiple. Mais aucun autre écrit de Louisa May Alcott ne connaît le même destin que celui des quatre filles du Dr. March, qui devient un classique de la littérature américaine. Intégré au programme scolaire dès les années 1890, le roman est à partir de 1925 l'un des titres phares recommandés par le Federal Bureau of Education. Pour des générations de jeunes lectrices, il représente souvent la première lecture personnelle, celle qu'on choisit, qu'on chérit, qu'on relit, et Jo March, la première héroïne littéraire à qui on peut s'identifier. Avec le renouveau féministe des années 1970, la figure de Jo prend une dimension nouvelle. Simone de Beauvoir, dans ses mémoires, l'érige en modèle d'indépendance. Mais l'œuvre est-elle véritablement émancipatrice? Pour l'historienne Virginie Adam, la réponse est nuancée. Alcott valorise une communauté sororale, solidaire, mais la féminité qu'elle dessine reste empreinte de morale traditionnelle, centrée sur le mariage et la maternité. Régulièrement portée à l'écran, l'œuvre trouve une version marquante en 1949 avec Elizabeth Taylor dans le rôle d'Amy. Mais c'est l'adaptation de Greta Gerwig en 2020 qui en propose une lecture féministe affirmée. Jo, garçon manqué ou non neutre, y incarne une forme de désir de liberté quasi queer. Amy, quant à elle, assume que le mariage est pour elle une stratégie économique. La réalisatrice résume. Jo est une fille avec un nom de garçon, Laurie un garçon avec un nom de fille, et ils sont chacun le jumeau androgyne de l'autre. Louisa May Alcott a longtemps été surnommée l'écrivaine que les enfants d'Amérique préfèrent à Shakespeare. Elle reste encore aujourd'hui une figure d'identification forte. En témoignent ces mots de J.K. Rowling, la mère d'Harry Potter. Jo March est mon héroïne littéraire favorite. Ce qu'elle représentait pour une petite fille ordinaire ayant l'ambition brûlante de devenir un écrivain ne saurait être passée sous silence. Celle qui l'a engendrée, Louisa May Alcott, aurait pu elle aussi être un personnage de roman. Elle l'a d'ailleurs été, en quelque sorte.
Au cœur de l'histoire.
Stéphane Bern.
Bonjour Virginie Adam, merci d'être avec nous sur Europe 1.
Bonjour.
Vous êtes historienne et auteure du livre « Des femmes en Amérique, une histoire des États-Unis » de Pocahontas à MeToo aux éditions Perrin, dans lequel vous consacrez un chapitre à Louisa May Alcott. À partir de quand son roman « Les quatre filles de Dr. March » devient-il un classique de la littérature américaine ?
Eh bien, en fait, vous l'avez dit, déjà, c'est un best-seller qui est quasi instantané. Hein. Il est réédité en à peine un mois, des dizaines de milliers de copies sont vendues. Louisa May Alcott devient une célébrité de son vivant, à vrai dire. Et finalement, quand il est inclus en 1890 dans le curriculum scolaire, ça vient consacrer un usage qui en faisait déjà de fait un classique d'un certain sens. Et on peut ajouter le fait qu'il a connu de multiples rééditions après l'expiration du copyright en 1925 et aussi des adaptations, voilà, théâtre, cinéma, radio, etc., qui font qu'on a pu se réapproprier, réinventer l'œuvre depuis.
Virginie Adam, je l'ai raconté dans mon récit, Louisa May Alcott s'inspire de sa vie pour écrire les quatre filles du Dr. March. En dehors du fait qu'elles sont effectivement quatre sœurs dans sa propre famille, quelle est la part de réalité et de fiction dans cette œuvre littéraire ?
En fait, c'est ce qui fait, d'une certaine manière, ce qui rend l'œuvre aussi attachante, c'est qu'effectivement, les parallèles entre la vie de Louisa May Alcott et de la famille March sont très nombreux. C'est son modèle pour un roman qui était un roman de commande. Alors, vous l'avez dit, les quatre sœurs, des noms qui sont parfois très proches, hein, Lizzie et May notamment, deviennent Beth et Amy. Des caractères similaires, des parents dont la mère aux idées affirmées, le père quasiment absent, ce qui correspond un peu à la réalité vécue par Louisa May Alcott. La carrière de Jo aussi, ses aspirations littéraires, les encouragements qu'elle reçoit de la part de sa famille. Son expérience dans la ville, dans le cas de Louisa May, c'était surtout à Boston. Et parfois, d'ailleurs, Louisa May Alcott se désignait explicitement comme Jo, et puis elle a même annoté son manuscrit en disant à quoi correspondait de sa vraie vie certains passages du roman. Il y a aussi des différences parce que c'est un livre qui visait un public plutôt jeune, et donc certains aspects de la famille Alcott étaient plus difficiles à restituer dans un roman. Déjà, le couple Alcott a une vie quand même assez tumultueuse.
Bronson, vous voulez dire c'est un couple libre ?
Ah, c'est pas que c'est un couple libre, mais c'est que Bronson Alcott est un esprit libre, disons, on va dire. C'est un radical religieux, il a une personnalité instable et il quitte souvent le foyer, alors pas pour aller avec d'autres femmes particulièrement, mais alors pour aller explorer sa vie intellectuelle, sa vie personnelle. Quand ils vivent du côté de Philadelphie, quand Louisa May est très très jeune, lui, la famille vit à Germantown, qui est une ville qui est dans la banlieue de Philadelphie. Lui va s'installer à Philadelphie parce qu'il veut aller lire des livres, en fait. Et donc il laisse la mère de famille s'occuper toute seule du foyer. Donc
on peut pas le raconter dans un roman pour jeune fille.
Non, parce qu'en fait on veut une figure du père un peu idéalisée. Et puis surtout, en fait, du coup, il laisse la famille dans un dénuement absolu. En fait, c'est une famille qui est extrêmement pauvre, qui vit beaucoup de la charité. Des voisins, des amis du couple, notamment les Emerson, les Hawthorne, les Thoreau, qui vont donner de l'argent, qui vont assister vraiment financièrement la famille qui doit déménager constamment, etc.
Mais on sent bien que son enfance et son éducation ont conditionné sa carrière et même sa vision du monde.
Tout à fait. Alors, d'une certaine manière, elle le restitue aussi, puisque la famille March est un peu désargentée, mais elle est un peu désargentée de manière un petit peu édulcorée. Et effectivement, son éducation, c'est celle de ce milieu transcendantaliste que vous décriviez, et elle est atypique pour les États-Unis de l'époque. Elle grandit dans un monde intellectuel de Nouvelle-Angleterre, bourgeois, éduqué, marqué par l'idée de l'épanouissement moral, personnel et spirituel des hommes comme des femmes, comme quelque chose de fondamental. Et là aussi, on peut introduire aussi le rôle de la mère, Abigail Alcott, donc Abba, qui est une femme qui considère qu'une femme peut accomplir autant qu'un homme, à condition que son éducation le lui permette.
Et justement, en quoi Louisa May Alcott a-t-elle créé des héroïnes auxquelles il est facile de s'identifier ?
Il est facile de s'identifier parce que c'est un roman qui est écrit d'après nature. Louisa May Alcott, en fait, elle ne voulait pas faire de roman de jeune fille, elle ne voulait pas servir de modèle pour toutes les petites filles du monde, hein. Vous l'avez dit, elle déclare elle-même mal connaître son genre. Mais par contre, elle se base sur son vécu et sur celui de ses sœurs. Et c'est ce qui rend son roman identifiable, en fait, ses filles. Ne sont pas parfaites. Elles râlent parce qu'elles veulent des cadeaux à Noël, elles se chamaillent, elles ont des défauts, elles s'expriment comme des petites filles de la vraie vie, en fait, puis ensuite comme des femmes de la vraie vie de leur temps. Donc quand on lit ces pages, on se reconnaît sans doute assez facilement dans ses défauts et dans ses aspirations. Et je le dis en tant que petite fille de 9 ans qui a lu, effectivement, comme vous l'avez dit, en premier roman, c'est le premier roman que j'ai lu, et on s'identifie très rapidement à ces jeunes filles parce qu'elles sonnent juste.
Vous écrivez dans votre livre que Louisa May Alcott brocarde la morale victorienne qui domine alors aux États-Unis, où le devenir d'une jeune fille est celui d'une épouse, à moins qu'elle ne meure avant. Cette morale victorienne est conservatrice. Pourtant, le roman nous offre une vision dans laquelle les femmes peuvent être libres de leur choix et de leur avenir.
Tout à fait, parce que en fait, ce roman, quelque part, c'est un peu une critique par l'exemple. On le voit avec quelques indices, hein. Lorsque Meg va faire son début dans la bonne société, celle qui est conforme à cette morale victorienne, elle revient, elle est un petit peu vaniteuse. Jo, dans cette bonne société, elle n'y est pas à sa place, elle brûle sa robe, elle perd la moitié de ses affaires. Et ce qui aurait pu correspondre à la morale victorienne, vous l'avez dit, c'est quand Jo rencontre Laurie. C'est un excellent parti, il lui aurait assuré un futur stable et domestique à elle ainsi qu'à sa famille, et c'est ce futur-là qu'elle refuse explicitement et que Louisa May Alcott, quand elle écrit le roman, dit refuser. Elle ne veut pas donner ce plaisir à ses lecteurs et à ses lectrices d'offrir cette porte de sortie idéalisée et conforme à la morale. Donc montrer des jeunes filles qui prennent toutes des chemins de traverse va à l'encontre justement de cette morale victorienne. Même Meg, qui épouse Mr. Brooke, elle épouse un homme respectable mais désargenté. Et en fait, tous les mariages du roman, en quelque sorte, c'est des partenariats. qui sont bâties sur des affinités électives, des affinités de caractère, plutôt que sur des conventions sociales d'un sens.
Virginie Adam, on parlait il y a quelques instants de la fresque morale des quatre filles du docteur March, dans laquelle on découvre que les femmes peuvent être libres et choisir leur voie. Louisa May Alcott est-elle ainsi aujourd'hui considérée comme l'une des figures du féminisme américain ?
Alors, elle n'a pas toujours été considérée comme telle, mais elle peut l'être, et elle l'a été récemment, avec l'adaptation notamment par Greta Gerwig du roman, puisqu'elle appuie véritablement sur des thèmes plus engagés dans ce sens, alors où elle prend des libertés avec l'œuvre de départ, mais y compris avec une dimension un petit peu méta, en fait, dans le film, où la rencontre de Joe avec Friedrich Per, donc celui qui devient son mari, est inscrite dans une réflexion sur la commande par l'éditeur, la commande d'une fin où l'héroïne finit forcément mariée. Et si Louisa May Alcott elle-même ne s'identifie pas comme féministe, c'est un terme qui s'affirme plutôt peu après sa mort.
C'est un peu anachronique, disons.
C'est un petit peu anachronique. Le terme, les premières occurrences du terme, c'est autour des années 1907 après, ouais, voilà. Mais elle était elle-même, voilà, engagée dans la volonté d'avoir une présence dans la vie publique. Elle était suffragiste. Elle est la première inscrite sur les listes électorales de Concorde quand elle peut voter. Donc, on voit qu'il y a quand même un engagement de sa part en ce sens. Et le fait que Jo March soit décrite comme une femme qui est par raccord avec les femmes de son temps, c'est ce qui a permis, en fait, à beaucoup de féministes de s'identifier en elle, dont Simone de Beauvoir, évidemment.
Mmh. Oui, d'ailleurs, dans votre livre, vous montrez bien justement cette vision, vous nuancez en tout cas la vision féministe de Louisa May Alcott, parce que le chapitre qui lui est dédié se replace dans le contexte d'une société après la guerre de sécession. Est-ce qu'on pourrait en quelques mots rappeler la situation des États-Unis lorsque le roman paraît en 1868 ?
Oui, alors à la fin des années 1860, les États-Unis, c'est une collection d'États et de territoires, c'est-à-dire qu'il y a des espaces dans les États-Unis qui ne sont pas encore reconnus comme États, pour la partie qui est à l'ouest du Mississippi. Alors, c'est le moment de la sortie de guerre de sécession, on est dans une politique de reconstruction, dans une période de crise politique. Le président des États-Unis, celui qui succède à Abraham Lincoln, est soumis à une procédure d'impeachment. La réintégration des États sudistes pose question, notamment par rapport à la sortie de l'esclavage, à l'intégration de la population anciennement réduite en esclavage dans le corps citoyen. À l'Ouest, c'est une politique coloniale qui s'affirme avec des migrations d'Est en Ouest, le train transcontinental qui est en construction, des guerres indiennes, contre les Cheyennes, contre les Sioux, etc. L'industrialisation et l'immigration venues principalement d'Europe, mais aussi de Chine. Et quelque part, le roman de Louisa May Alcott permet d'ouvrir une fenêtre sur une Amérique qui est en train de disparaître d'une certaine manière. Vous avez dit le terme « WASP », voire le terme anglo-saxon à cette époque-là, et d'ailleurs aujourd'hui encore aux États-Unis, est très chargé politiquement. C'est une façon de, c'est un terme qui est identitaire, de repli. Et c'est une Amérique un petit peu fantasmée, au sens où la Nouvelle-Angleterre a bel et bien existé, mais en fait, elle ne résume pas complètement les États-Unis de cette époque.
Oui, on comprend dans votre livre que le contexte historique les États-Unis n'est pas celui dans lequel évoluent Meg, Joe, Bess et Amy March, qui vivent en fond dans leur bulle familiale. Vous pensez que c'est un parti pris de l'auteur, que pour faire un roman pour jeunes filles, elle les a mises dans une bulle et les a extraites en quelque sorte d'une réalité contemporaine ?
Alors, soit un parti pris de Louisa May Alcott, soit aussi un parti pris conjoint d'elle et de son éditeur. Qui voulait lui faire un roman d'édification pour jeune fille. Et elle, en fait, son parti pris, c'était de parler de quelque chose de réel. Et quoi de mieux que de parler du vécu qu'elle, elle connaissait. Elle n'a pas été ouvrière textile, elle n'a pas été pionnière dans l'Ouest. Elle était blanche, elle était issue d'un milieu éduqué. Mais son parti pris, elle, c'est que ses mots sonnent justes.
Vous avez choisi de raconter Louisa May Alcott au milieu d'autres figures féminines historiques américaines, et ce, dans un ordre chronologique. Pocahontas, Calamity Jane, Rosa Parks, jusqu'à Kamala Harris ou encore Beyoncé. Comment est-ce que vous les avez choisies, toutes ces femmes américaines ?
Je les ai choisies en fonction un peu de qui je suis. C'est-à-dire que je suis historienne, mais je suis aussi enseignante et je suis aussi citoyenne, on va dire. Et certains de ces choix sont partis de mes propres recherches. Je travaille principalement sur la période coloniale, donc voilà. D'autres ont été inspirés par mes cours et des cours d'histoire américaine. D'autres, enfin, par mon attention à l'actualité. En fait, j'ai essayé de jouer sur à la fois des figures qui étaient très connues et qui sont presque devenues des icônes, et d'autres qui sont au contraire très méconnues. En tout cas, ce qui était important pour moi, c'était de montrer la diversité, en fait, des destins, la diversité des origines de ces femmes, et donner ensuite, à partir de là, de la profondeur de champ sur une période ou sur un moment de l'histoire.
Oui, vous écrivez, avec ce livre, il ne s'agit donc pas seulement de donner de la visibilité à des actrices de l'histoire longtemps absentes des mémoires collectives. Il s'agit, en redonnant une place aux femmes, de mieux comprendre la formation et le fonctionnement de sociétés d'abord nouvelles, coloniales, qui à la fin du XVIIIe siècle donnent naissance aux États-Unis d'Amérique. Et quelle place alors occupe Louisa May Alcott au milieu des autres femmes que vous racontez dans cet ouvrage ?
Alors le chapitre que je consacre à Louisa May Alcott, ce qui m'intéressait dedans, c'était aussi de faire une histoire donc, par les femmes, avec leurs mots. Et donc comment ne pas penser en premier lieu à elle dans ce contexte, elle qui porte une voix féminine et qui parle d'une condition féminine avec ses mots. Et dans ce même chapitre, je parle aussi d'autres femmes qui écrivent, d'autres, donc soit des autrices, soit des journalistes, soit des activistes. Mais en fait, c'est de montrer en fait, que les femmes se sont exprimées, elles étaient présentes sur la place publique et qu'on a tendance un peu à réduire l'histoire des États-Unis à certains grands thèmes dont les femmes sont par définition plus ou moins absentes. Or, elles étaient bien présentes et elles ont porté une autre vision de la société parfois, et c'était ça que je voulais montrer.
Je le disais, Les quatre filles de Dr. March est publié en 1868, cela fait donc plus de 150 ans. Comment les générations ont-elles au fil du temps interprété et réinterprété ce roman ?
Alors, la grande richesse de ce roman, c'est bon, déjà, il part d'une expérience vécue, mais il peut ouvrir sur plein de lectures différentes. Dans un premier temps, il a été lu comme vraiment voilà, un ouvrage d'édification à destination des jeunes filles. Ensuite, on en a fait une lecture nostalgique sur un âge d'or pastoral, dont on sait qu'il a été quand même un peu idéalisé par l'autrice, axé sur la période, les costumes, les mœurs. La lecture féministe dont on a parlé, elle est évidemment centrée sur les thèmes de l'émancipation, de l'éducation, de la sororité. Ça repose aussi sur en fait ce que je disais un petit peu au début, c'est un roman qui a été en fait qui est tombé dans l'espace public à partir de la fin des années 1920 et donc en fait c'est un matériau qui a été réutilisé, réinvesti donc par des productions radiophoniques, par des films, par il y a eu un animé japonais qui a été fait à partir de cette histoire. Il a été réinventé en fonction de ce qu'une époque voulait voir. On y a vu l'incarnation de l'Amérique, à savoir des États-Unis et du Nord-Est et des milieux bourgeois éduqués, mais en fait, c'est en fait devenu un peu un kaléidoscope de certaines visions qu'on pouvait projeter de l'Amérique qui se superposent puisqu'elles se succèdent d'une certaine manière.
Un dernier mot dans justement cette vision qu'on a de l'Amérique qui est vue par des femmes. Comment est-ce que vous faites un lien entre Louisa May Alcott et Margaret Mitchell ?
Alors, c'est deux femmes qui ont écrit à des moments différents. Margaret Mitchell aussi a essayé.
On rappelle que c'est l'auteur de Gone voilà. with the Wind, Autant en emporte le vent.
Qui a écrit Autant en emporte le vent, tout à fait. Et en fait, elle l'écrit dans les années 1920-1930. Hein, c'est le moment où elle est active. Et en fait, le point commun, c'est que c'est une histoire qui est écrite d'après nature, c'est-à-dire qu'elle prend un modèle, même si elle ne l'assume pas explicitement, c'est-à-dire celui de sa grand-mère. Elle ne l'assume pas explicitement puisque sa grand-mère était une femme très pieuse qui a été mariée à un seul homme. Et donc, Scarlett O'Hara, de fait, n'a pas exactement cette vie. Et je pense qu'elle avait un petit peu peur des foudres de sa grand-mère si ça se savait que ça avait été son modèle. Donc, il y a un petit peu cet aspect-là. Par contre, Margaret Mitchell a un programme politique qui est plus assumé, à la différence peut-être de Louisa May Alcott, qui a un programme d'essayer de mettre en avant donc, ce qu'on appelle la cause perdue, de montrer une nostalgie d'un Sud qui a disparu, d'un Sud où la vie était plus douce. La vie était plus douce, en tout cas pour les personnes
certains.
Blanches, peut-être pas pour les personnes oui. qui étaient réduites en esclavage. Et c'est là que se loge le programme politique, puisque ça s'inscrit dans un discours à ce sujet-là.
Eh bien, merci beaucoup, Virginie Adan, de nous avoir accompagnés cet après-midi au cœur de l'histoire de Louisa May Alcott, la mère des quatre filles du Dr. March. Je rappelle que votre livre, Des femmes en Amérique, une histoire des États-Unis de Pocahontas à MeToo, est disponible aux éditions Perrin.
Merci beaucoup.
C'était Au cœur de l'histoire avec Stéphane Bern, qui reviendra aujourd'hui, vendredi, pour nous raconter le destin de Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers sacrifié par le roi de France. Et ce sera de 15h à 16h. Bonne nuit avec nous sur Europe 1. Retour dans les années 80, tout de suite avec Madonna. On va écouter La Isla Bonita, un incontournable de son album True Blue. Et puis juste après, retour sur des témoignages de la Libre Antenne, entendus notamment cette semaine.
Cómo puede ser olvidar Last night I dreamt of San Pedro Just like I'd never gone I knew the song The young girl with eyes like the desert It all seems like
Isla Bonita sur Europe 1, Madonna, je ne sais pas vous, mais moi les paroles me sont revenues en mémoire comme ça après toutes ces années. C'est dingue, il faut dire aussi que je la chantais beaucoup quand j'étais plus jeune. Allez, Madonna, tiens, je voulais vous donner cette info. Il y a un petit peu moins de 15 jours, elle nous dévoilait la sortie de Veronica Electronica, une collection de remixes rares et inédits, nous dit-on, de son album Ray of Light, qui était sorti en 1998. Ray of Light, je le rappelle au passage, c'est quand même 16 millions d'exemplaires vendus dans le monde et qui a valu à Madonna 4 Grammy Awards, dont celui du meilleur album pop. Alors, on découvrira son Veronica Electronica le 25 juillet prochain. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Place tout de suite à la libre antenne en nouvelle diffusion avec, pour commencer, un premier témoignage au micro de Valérie Darmon.
Bonsoir Elena.
Oui, bonsoir, c'est Valérie.
C'est Valérie, tout à fait. Oui. Enchantée.
Eh bien, enchantée aussi. Je vous appelle, enfin je suis contente de vous avoir, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques jours, vous avez été en communication avec sur l'antenne avec un intervenant qui m'a beaucoup intéressée, qui était Nicolas. Il s'appelait Nicolas et c'était un kiné qui faisait de la médecine
ayurvédique, c'est de la médecine indienne.
Voilà. Oui. Et alors, quand il parlait, j'ai dit, mon Dieu, c'est ça qu'il faut pour ma petite fille. Voilà, je suis une mamie de 79 ans.
Oui.
J'ai une petite fille qui vient d'avoir 13 ans.
Oui.
Et qui souffre de neuropathie cognitive, plusieurs 10.
Est-ce que vous pouvez éteindre la radio ou la télévision, s'il vous plaît, Léna?
Ah oui.
Parce
oui,
qu'on oui. entend un son bruit, derrière. Voilà, exactement. Oui. Un bruit de fond. Et comme ça, on pourra mieux se concentrer sur
D'accord.
vos paroles. C'est important.
Oui.
Voilà, c'est mieux. Alors, je vous écoute. Donc, votre petite fille de 13 ans souffre de
neuropathie cognitive.
Oui.
Et de multidis.
Oui.
Et dyspraxie.
Oui, alors la dyspraxie, je rappelle juste ce que c'est. Hein, c'est des difficultés dans la motricité, qu'elles soient fines, hein, c'est-à-dire écrire, boutonner une chemise, ou alors une motricité globale, c'est-à-dire attraper un ballon, danser, courir, synchroniser les gestes.
Oui, ça, elle arrive à courir, tout ça, ouais. Mais quand elle n'a pas trop mal, parce qu'en ce moment, elle a mal partout, tout le temps. Mais elle a cette dyspraxie surtout à l'écriture. Quand elle écrit longtemps, elle tient mal son stylo, tout ça. Enfin, elle est un petit peu avec la main. Elle tient mal le stylo déjà.
Oui.
Donc, bon. Et ce qui fait qu'en plus, elle a cette dyspraxie fait qu'elle a du mal à s'organiser.
Ah oui, planifier, c'est compliqué. Oui, oui.
Voilà, les étapes. En plus, quand on lui parle, faut pas. On lui dit, bon, tu ranges ça, puis n'oublie pas, ta brosse à dents, tu l'avais mise là, enfin, etc. Va la chercher, vous lui dites autre chose. Il faut pas lui dire trop de choses à la fois, quoi.
Bah, sinon, elle a du mal. La dyspraxie, Exactement. C'est aussi l'organisation dans l'espace, hein. Donc, elle a
Tout
du mal
ça.
À se repérer dans son environnement aussi.
Voilà.
C'est vraiment le fonctionnement de son cerveau. C'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle n'y arrive pas.
Non, voilà. Oui. Alors, oui, mais maintenant, on sait. Mais avant d'en arriver là, il a fallu...
Oui.
Bon, inutile de vous dire que ma fille, donc, enfin, sa maman,
oui.
donc, a... galère déjà depuis bien 2 ans pour tout ça, quoi. Et il se trouve qu'il y a 3 mois, enfin cette année, donc, elle est en 5e, normale, au collège,
Et à la rentrée, enfin, en novembre, disons, puisque elle était en cinquième à la rentrée, et en novembre, on a dû la mettre pendant 3 mois dans un centre pour qui s'occupe des enfants qui seraient un peu comme elle, voilà, pendant 3 mois, avant de reprendre en février là le collège. Elle a passé les 3 mois, mais ça s'est pas passé très bien, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'elle n'est pas ressortie mieux. Elle n'a pas été ses douleurs, les douleurs qu'elle avait, parce que elle a beaucoup de douleurs qui l'empêchent d'aller à l'école régulièrement, à l'heure, se lever à l'heure, le temps qu'elle se
prépare.
Elle est devenue lente.
Oui.
Le temps qu'elle se prépare.
Bah, tout lui demande plus d'efforts.
Exactement.
Hein. Mais est-ce qu'elle voit un ergothérapeute ou un neuropsychologue?
Alors, je dois vous dire, elle voit. Ergothérapeute, neuro, kiné, mais attention, on ne peut pas trop la toucher. Elle a une grande sensibilité au toucher, justement. C'est-à-dire que si on la touche, il faut plus appuyer, enfin que toucher. Je ne sais pas comment vous expliquer.
Oui, elle a des pressions.
Exactement. Voilà. Et elle fait de l'art thérapie,
oui.
De l'ergo. Enfin, elle fait de
l'ergo. Ça l'a aidé, l'art thérapie, ça l'a
oui,
aidé.
Oui, beaucoup. Mais le problème, c'est que quand au bout d'un moment, elle a mal, et quand elle rentre, elle est contente d'avoir fait l'art thérapie. Mais elle est fatiguée et le lendemain, elle a mal. Elle a mal d'avoir bougé, d'avoir... voilà. C'est-à-dire qu'elle a vraiment beaucoup de difficultés, enfin, de problèmes. C'est un peu nerveux, quoi.
Oui.
C'est...
Mais que disent les médecins?
Eh bien, les médecins... Alors, il y a un tas de médecins qui sont... comment dirais-je... je suis avec la radio. Excusez-moi, parce que...
Vous avez entendu le téléphone. Ah, c'est votre fille.
Qui m'appelait, parce que j'aurais préféré que ce soit elle qui passe, n'est-ce pas ? Et je n'arrivais pas à la joindre, justement. Et donc, je lui avais fait un message, et je m'appelle au moment...
Vous passez sur l'antenne d'Europe 1. Voilà. Mais elle pourra réécouter votre entretien sur europe1.fr,
Voilà, toute façon. Et alors, donc, je lui ai... c'était juste au moment où, justement, elle a du mal à la coucher, à l'heure,
oui.
Parce que comme elle est lente, elle fait beaucoup de choses, elle mange lentement, elle mange par contre rapidement, mais par contre après elle se lève et tout de suite elle s'en va sur ses appareils là, à faire ses dessins, à entrer en communication avec les copains, copines et tout
oui,
ça.
Sur les écrans. Donc les écrans.
Les écrans.
Oui.
Mais et les copains, copines qu'elle n'a que sur les écrans, quoi, maintenant. Parce que finalement, elle ne va plus au cours. Depuis qu'elle est revenue du centre, là, pendant 3 mois, elle devait normalement reprendre l'école comme elle pouvait. Enfin, il y avait un planning qui allait s'établir avec le collège, parce que le collège était au courant qu'elle était partie en... C'est un centre où elle a été interne, en fait, pendant 3 mois.
Oui.
Et où devait la soulager. Et en plus, faire un peu d'école, quoi, aussi.
Oui.
C'est-à-dire, c'est
lui apprendre des manières de faire avec son multidis.
Voilà.
En même temps qu'elle apprenait. Est-ce qu'elle a une aide, à l'école, de toute façon?
Non. Justement, quand elle a repris là, elle avait repris l'école au moment après les vacances de février, et finalement, elle n'a jamais pu, aller tous les jours au collège, quoi. Chaque fois, elle avait mal. C'était même pire quand elle est revenue. Il y avait d'autres maux qui étaient qui lui arrivaient. C'était que elle avait des vomissements et en plus, elle avait mal au ventre. En plus de tous les petits maux dont je vous ai parlé.
Oui.
Et donc, Enfin, ça a été catastrophique. En fait, elle perd son année, quoi. En fait, et là.
Donc, il y a une exclusion sociale qui se met en place petit à petit.
Oui. Alors, mais entre temps, ma fille a eu une réunion avec le collège, puisque en fait, la petite, elle est en MDPH, hein, quand même. Ah. Elle a pu obtenir. Donc, elle peut suivre tous ces. Enfin, ces médecins et tout ça, mais il faut que entre eux, ils soient en réunion, si, oui. Voilà, de manière à se communiquer. Mais le temps que chacun la voit, il s'écoule un temps fou durant l'année, ce qui fait qu'elle peut pas. Ma fille est obligée d'aller quand elle va à l'école, quand elle y va. Hein, d'aller la chercher pour l'emmener à la séance de ceci, cela, à partir de 11h30, enfin à l'heure de la cantine, du ceci, du cela, vers 16h, enfin en fonction des rendez-vous qu'elle a chez ces différents
praticiens.
Oui. Donc comment voulez-vous suivre en cinquième un programme? Alors, à l'école, ils savent maintenant que... quand la maman vient la chercher ou quand la petite ne peut pas venir, elle doit tous les jours, que ce soit le matin, que ce soit l'après-midi, on lui demande de faire la présence au moins une fois ou deux, enfin comme elle peut. Mais si vous voulez, chaque fois, ma fille est obligée de prévenir.
Voilà. Elle est toute seule dans la... Elle est, oui. Fille unique, oui.
Voilà. Mmh. Et donc... enfin, ma fille a beaucoup de difficultés.
Et son papa est présent.
Alors, le papa, les parents viennent de se séparer depuis un an, elle n'a pas vu son papa. Enfin, le papa était à la maison et depuis il y a un an, il est parti. Enfin, ils se sont séparés.
Mais elle le voit, tout de même.
Non. Non, elle ne l'a plus vu.
Et à quel moment ont commencé les douleurs?
Les douleurs avaient commencé déjà un petit peu pendant que les parents étaient un petit peu en bisbis, quoi.
Oui.
Le papa était travaillé le soir à partir de 17h. Il rentrait tard et tout, enfin, de par son travail. Et puis, bon, au fur et à mesure, le papa s'est un peu détaché de la petite. Le papa qui était assez bon, qui s'occupait, qui s'est toujours bien occupé d'elle et tout. Mais au fur et à mesure que la petite a eu ses problèmes, qu'elle n'a plus été, bon, la petite fille formidable et tout.
Sans problème.
Oui, on a senti. Puis en plus, elle est devenue grande. C'était plus le bébé, enfin, c'était plus 5, 6 ans, 8 ans, où ils s'en occupaient beaucoup. Au fur et à mesure. C'est une grande plante, elle est très grande, costaude.
Elle voit un pédopsychiatre un psychothérapeute.
Mais justement, on n'a pas arrivé. Alors, celui qui manque dans tout ça, tout ce que je vous ai dit, c'est le psychiatre ado, en fait, pour pouvoir régenter un peu tout ça. Et parler un petit peu avec la fille.
C'est pas régenter, c'est surtout voilà, lui faire libérer la parole et s'exprimer.
Ça,
parce que là, le papa qui disparaît alors qu'elle a 13
exactement.
Ans, au fil de l'année de séparation, ça doit être une douleur pour elle.
Oui, et puis en plus, à Noël, il n'a pas apparu. Et par contre, au 15, là, elle vient de fêter ses 13 ans. Il lui a envoyé une petite carte de très loin, où il était parti, on suppose, ou en vacances, ou en rendez-vous professionnel, enfin, bref. Et il lui a envoyé une petite carte, alors qu'il habite à deux rues de la maison, à Paris. Et il lui a envoyé une petite carte juste très conventionnelle, bon anniversaire ma fille, juste comme ça, pas comment vas-tu,
oui.
Parce qu'il a su qu'elle a été hospitalisée pendant 3 mois, etc. Bon, bref, mais là, elle n'a pas eu de ses nouvelles.
Oui. C'est violent pour elle. Hein.
Voilà. Et donc, elle vit donc avec sa maman, donc à Paris. Mmh. Et là, depuis qu'elle est revenue donc de ces 3 mois en plus où elle a manqué l'école, vraiment, enfin son collège, elle est revenue pour vers ses amis de temps en temps, quand elle apparaît, quand elle a le temps d'apparaître, en fait, ou qu'elle s'est levée, qu'elle a pu se lever, ou qu'elle arrive vers 9h30, 10h, un peu tard. Mais on lui a dit, quand même, il faut venir, même si c'est une heure, deux heures, il faut être là, quoi, pour qu'on puisse programmer quelque chose.
Oui, et puis lui maintenir une vie sociale, mais
voilà,
elle n'est pas du tout.
En fait,
elle n'est pas du tout. Elle n'est pas du tout. Elle est née en phobie scolaire. C'est juste qu'elle ne peut pas physiquement aller en classe.
Exactement. C'est ça. Alors, parce qu'au début, tout le monde a pensé que c'était un petit peu, oui, la phobie scolaire, etc. Non, non, c'est pas ça. En plus, elle s'entend bien avec les amis et tout ça. Au début, enfin, qu'elle était à la rentrée de septembre, elle était même devenue chef de classe et tout. Enfin, ça se passe très bien avec les amis.
Et sur la neuropathie, que disent les médecins?
Eh bien, les médecins, la neuro qu'elle voyait à Bicêtre,
oui,
hôpital,
oui,
en spécialité, la neuro trouve que, oui, mais maintenant, tous les enfants maintenant, enfin, elle prend un peu les choses un petit peu de haut, c'est comme si tous les enfants sont maintenant, ont des problèmes neuropathiques et tout
ah bon
ça. Enfin, oh, mais c'est comme une mode maintenant, ils ont tous des TDA. Alors, quand elle l'a reçue comme ça, ma fille, bon, elle... Bon, enfin, elle n'a rien dit, mais enfin, elle était un petit peu étonnée parce que la rhumato était avec une jeune personne qu'elle avait à côté, qui doit être en apprentissage.
TDA, bon, c'est trouble de l'attention, hein ?
Oui, c'est ça. Ouais. Et quand elle en a parlé, elle a dit, oh, c'est une... C'est,
mode.
Ils ont tous des TDA, quoi. C'est comme une mode, quoi.
Mais enfin, on peut tester, on peut poser des vrais diagnostics,
ouais,
aussi, quand même. Hein.
Oui, oui, oui. Et par contre, c'est la neuro qui veut, grâce, enfin, avec tous les praticiens qu'elle voit, qui veut essayer de provoquer une réunion pour qu'ils puissent tous s'entendre.
Oui, en staff.
Voilà, de manière à... Alors, on va peut-être y arriver, mais il paraît que la réunion, elle n'est pas programmée encore. Donc, et on arrive, on est au mois de mai, voilà, bien entamé. Et en fait, la réunion n'est pas encore faite. Et la PIT, bon, en fait, depuis février-mars, quoi, n'a pas eu grand-chose, n'a pas été notée encore, puisque... Elle va pas à l'école. Alors on lui a fait comprendre que faites attention parce que vous savez, hein, l'école est obligatoire, etc., etc.
Bon, oui, mais c'est pas de son, ouais, fait. De toute façon,
oui,
votre fille,
oui, oui,
elle peut justifier tous les rendez-vous médicaux.
Elle peut, bien sûr. En plus, depuis la sortie du centre là où elle était dans Paris-Ouest. Elle était dans un centre, bon, où ça n'a pas été très concluant, mais les rapports donc arrivent peu à peu, et enfin grâce à ça, on sait que bon, la petite ne fait pas du cinéma.
Voilà.
Par contre, au niveau de l'accueil qu'elle a, au niveau de la rhumato particulièrement, enfin qui lui a fait comprendre, enfin on lui fait comprendre que est-ce que bon la petite ne serait pas sûre, enfin que ma fille la sur
protégerait.
Oui, c'est-à-dire surmédicalisée, quoi,
ah,
en fait. Parce qu'elle essaye de... C'est elle qui gère un peu tout ça, quoi, en fait. Elle est... Et comme, vous savez, les consultations au niveau des médecins, en fait, sont très courtes, en fait. C'est 15 minutes, 20 minutes. Et le temps que... on voit la petite et qu'on la consulte, mais que ma fille explique qui elle a vu, qu'est-ce qu'a dit celui-là, on a fait ça depuis, telle chose. C'est très long, très difficile. Enfin, ça passe très vite, quoi, en fait. Donc, au bout d'un moment, on la laisse même plus parler. Et puis, voilà. Et pendant ce temps, le médecin écrit et tout. Enfin, quand elle me raconte un peu, quand elle revient des consultations et tout, elle est toujours assez quand même retournée et me dit il va falloir que je fasse des topos, voilà, que j'envoie à chacun pour
aux uns aux autres, etc. Celle qui fait la coordination.
Que je n'ai pas fini de lui dire que telle chose depuis j'ai pas le temps de parler, que elle parle ou elle écrit en même temps, et puis au bout d'un moment elle dit bon, enfin vous voyez, c'est
moi ce qui m'interpelle un peu dans tout ce que vous nous dites ce soir, Elena, et je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste, etc. C'est que c'est ces douleurs au niveau du corps. Elle souffre comme de la fibromyalgie un petit peu, hein, dans son corps.
Oui, alors en plus elle a une maladie, enfin de Gougerot, je sais plus quoi. Enfin, elle a du Gougerot. Il y a du Gougerot, mais qui n'est pas encore, qui ne s'exprime pas encore. Mais il y a ça. On lui a découvert ça.
Oui.
Donc et un Gévasco quand même a été fait quand même pour l'école, hein, pour les apprentissages. Mais il ne sert pour l'instant à rien, vu que elle n'arrive pas à aller en cours.
Oui. Alors on peut pas.
Et le soin étude. On lui a fait comprendre que le soin étude n'était que pour les douleurs et pas pour le TDA.
Oui. De toute façon, là, on est dans une prise en charge globale. On voit bien, hein, de toute façon. Moi, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me vient, c'est que pour les douleurs, peut-être que ce serait bien d'évoquer avec la personne qui va la suivre psychologiquement. Et je pensais au docteur Guillaume Font, qui est psychiatre au CHU de Montpellier, qui vient d'écrire un ouvrage, un énième livre d'ailleurs, chez Odile Jacob, sur bien nourrir son cerveau, la piste de la psychonutrition peut-être, parce que j'ai l'impression qu'il y a un terrain inflammatoire.
Certainement.
Et peut-être que c'est une piste avec la personne qui va la suivre à évoquer pour au moins calmer ses douleurs. Après, elle a l'air extrêmement bien prise en charge par de grands spécialistes, hein, donc il faut faire confiance aussi à la médecine. Mais peut-être c'est une piste aussi à explorer, et puis bien sûr trouver un psychothérapeute pour qu'elle puisse s'exprimer, cette petite fille.
Oui, parce que alors ça, on n'a pas réussi à trouver, parce que la personne qu'elle avait, qu'elle avait vue au début, bon, semble un petit peu, pas très,
pas très présente, pas très compétente.
Oui.
L'alliance n'est peut-être pas en place encore,
Voilà.
Et en art thérapie, pourquoi elle a arrêté l'art thérapie puisque ça fonctionnait bien?
Eh bien, parce que l'art thérapeute s'est déplacée par, je pense, elle est partie en Bretagne ou quelque chose comme ça. Enfin, elle n'est plus à côté, malheureusement, quoi. Mais c'est très difficile. Elle vit quelque chose.
Elle vous parle à vous?
Qui est la petite?
Oui, elle vous parle, elle se confie. Non, votre fille, j'imagine bien sûr, mais votre petite fille. Est-ce qu'elle se confie à sa maman? Est-ce qu'elle se confie à sa grand-mère?
Avec sa maman, beaucoup. Elles sont très, très, très
proches.
Très proches. Oui. Même quand elles partent, quand elles voyagent ensemble, enfin, qu'elles ont voyagé ensemble, elles sont parties elles aiment bien la Corée, elles sont parties en Corée ensemble et tout ça. Si, il y a beaucoup de soins, enfin, elle est très proche. Avec moi, eh ben, je n'habite pas avec elle, hein. Elles habitent toutes les deux.
Oui, bien sûr.
Et moi, je suis un peu éloignée. Ah, mais je vais souvent les voir. Mais, si vous voulez, le temps passe. La petite a un rythme maintenant qui est très lent, et elle dort, elle prend de la Ventoline le soir. Le sommeil est court, et dans la nuit elle se réveille soit pour boire, soit pour aller aux toilettes. Elle a des difficultés aussi à aller aux toilettes. Elle reste longtemps, plusieurs fois elle y va, ça ne vient pas.
Parce qu'elle doit être en stress aussi, cette petite fille.
Oui, quelquefois elle vomit. Ouais. Elle vomit et tout, et ça l'empêche de dormir. Ma fille est obligée d'aller le soir, pour l'apaiser, aller en musique, passer
des musiques, faire de la relaxation, un peu de sophrologie.
Exactement, avec elle, etc. Au point que, quelquefois, ma fille est plus claquée qu'elle, elle me s'endort même plus vite qu'elle. Mais elle n'a pas un sommeil long.
Oui, enfin, et peut-être pas réparateur aussi. Oui.
Exactement, ce qui fait que le matin, quand il faut se lever,
elle est fatiguée.
Elle est fatiguée. et les douleurs, voilà. Et oui. L'empêche de... voilà, et elle n'y va pas, etc., etc.
Ouais, c'est, bon, un cercle, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle
exactement.
Vicieux.
Et donc, ce qui me... quand j'ai écouté, justement...
Nicolas Robert...
Ah, oui. L'autre jour.
Sur le cancer du sein, d'ailleurs, il s'exprimait sur le cancer au départ, hein. Et puis
ce qui m'a fait, réagir, oui, c'est quand j'ai entendu qu'il disait que il faisait cette médecine, bon, qu'il a expliqué d'où ça vient, etc. Et il disait en chantant avec les couleurs.
Oui.
Et qu'il travaillait
sur les chakras.
Les chakras.
Et les couleurs des chakras.
Les couleurs, oui. Le rouge, le bleu, le rouge, le bleu, le vert. Il a bien expliqué, j'ai bien compris. Et j'ai déjà entendu ça avec elle, mais je me suis dit, mais c'est ce qu'il faut. En plus, quand il disait après, la personne se retrouve vivifiée, calmée. Oh, quand j'ai entendu déjà le mot calmée, vivifiée. Puis alors, cette musicologie aussi, il a parlé de ça aussi.
Oui, bien sûr. Bah, c'est un peu comme les mantras. Hein, quand on répète un mantra qui nous convient, effectivement, bah, ça calme en interne, hein, bien sûr.
Tout à fait. Et donc, je me suis dit, mais malheureusement, après, on n'a plus su où il était,
alors,
il n'est pas,
bien évidemment,
il n'est pas
bien
à Paris.
Elena, il est à Paris. Il est à Paris, il est dans l'Est parisien. On va vous donner son contact hors antenne. Je le dis pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, cet entretien de Nicolas est à réécouter, bien sûr, sur europe1.fr. C'est vrai qu'il a une approche très particulière. Il est kiné, hein, à la base, kiné-ostéo.
Bien sûr, hein. Je comprends bien. Oui.
Et il a rajouté des outils, comme chacun d'entre nous peut le faire en cabinet quand on a des formations sérieuses, évidemment. Donc, on va vous donner le contact hors antenne. Et moi, je vais me permettre de vous donner des contacts de psychothérapeute aussi pour votre petite fille.
Ah oui, s'il vous plaît. Oui, parce que moi, je vous suis depuis très, très, très longtemps. Déjà, ça, je devais vous en parler. Mais bon, le fait d'avoir entendu en plus Nicolas parler de ce qu'il faisait et qu'il arrivait avec des séances d'1h20 quand j'ai entendu
20,
ça à côté
20.
Des séances que ma fille, ma petite fille font que à peine 15-20 minutes, allez hop et le suivant, et puis on vous fait comprendre que bon, ça va oui, ça
après elle consulte à l'hôpital, et c'est vrai qu'on connaît la pressurisation des médecins à l'hôpital et les demandes. Après, je les excuse pas forcément, mais c'est vrai qu'il y a un contexte. Et on avait eu dans cette émission, je me souviens très bien, Corinne, qui était intervenue parce qu'elle avait été vraiment abîmée par des chirurgiens plastiques, une septicémie, un staphylocoque, après une reconstruction d'un cancer du sein opéré. Et en fait, il a réussi, ce monsieur, à retravailler toute la zone abîmée à plusieurs reprises, et elle n'a plus de douleur.
Oh, mon Dieu. Si ça pouvait se faire, ça. Si ça pouvait.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner le contact de Nicolas hors antenne.
Un
autre Nicolas. J'ai mon collaborateur qui s'appelle Nicolas,
oui,
mais les Nicolas sont formidables.
Oui,
voilà. Et on va vous donner le contact de Nicolas Robert, et je me permettrai de vous donner aussi le contact de psychothérapeute pour votre petite fille.
Oh, d'accord. Je vous remercie.
Et je vous propose de nous rappeler quand vous le souhaitez, Elena. Évidemment, vous savez que la Libre Antenne et Europe 1, de toute façon, nous sommes des antennes libres et ouvertes et tournées vers nos auditeurs.
Voice turns my ear all the way on. kisses for your lips. Yes, I got some honey, so go chocolate dipping kisses full of love for you. Yes, I got some candy kisses for your lips. Yes, I got some honey, so go chocolate dipping kisses full of love for you. My life has been waiting for your love. My arms have been waiting for your love to open. My heart has been waiting, my soul anticipating your love, love, love. From the time that I awake, I'm imagining the good love that will make. If to me, if I can do all this, well, just imagine how it's gonna feel when we hug and kiss. Sugar, do I do what you do when I do my love to you? All right. Yes, I got some candy kisses for your lips. Yes, I got some honey, some chocolate dip and kisses full of love for you. I got some candy kisses for your lips. Yes, I got some honey, some chocolate dip and kisses for love for you.